Virgile, Géorgique. Traduction en vers de Jacques Delisle. Livre premier. Je chante les moissons. Je dirai sous quel signe il faut ouvrir la terre et marier la vigne, les soins industrieux que l'on doit au troupeau, et l'abeille économe et ses sages travaux. Astres qui, poursuivant votre course ordonnée, conduisez dans les cieux la marche de l'année, protecteurs des raisins, déesses des moissons, si l'homme, encore sauvage, instruit par vos leçons, quitta le gland des bois pour les gerbes fécondes, et d'un nectar vermeil rougit les froides ondes, divinité des prés, des champs et des forêts, faunes aux pieds légers, vous, nymphes des guérets, faunes, nymphes, venez, c'est pour vous que je chante. Et toi, Dieu du Trident, qui de ta main puissante de la terre frappa le sein obéissant, et soudain fit bondir un coursier frémissant, Pallas, dont l'olivier enrichit nos rivages, vous, jeune dieu de Cé, ami des verts bocages, pour qui 300 taureaux éclatants de blancheur paissent l'herbe nouvelle et l'aubépine en fleurs, Pan qui, sur le Lycée ou le riant Ménal, anime sous tes doigts la flûte pastorale, vieillard, qui dans ta main tiens un jeune cyprès, enfant, qui le premier sillonna les guérets, vous tous, dieu bienfaisant, déesse protectrice, qui de nos fruits heureux nourrissez les prémices, qui versez l'eau des cieux qui féconde les champs, ainsi qu'à nos moissons, présidez à mes champs. Et toi qu'attend le ciel et que la terre adore, sous quel titre, ô César, faudra-t-il qu'on t'implore? Veux-tu, le front paré du myrte maternel, remplacer Jupiter sur son trône éternel? Va, préside aux saisons, gouverne le tonnerre, protège les cités, fertilise la terre. Veux-tu sur l'océan un pouvoir souverain? Le trident de Neptune est remis dans ta main. Tétis t'offre sa fille, et roi des mers profondes, tu recevras pour dot tout l'empire des ondes. Peut-être plus voisin de tes nobles aïeux, nouveau signe d'été veux-tu briller aux cieux? Le scorpion brûlant, déjà loin d'Érigone, s'écarte avec respect et fait place à ton trône. Choisis, mais garde-toi d'accepter les enfers. Convente l'Élysée et ses bois, toujours verts, fière d'un sceptre affreux que Proserpine y règne. Toi, je veux qu'on t'adore et non pas qu'on te craigne. De nos cultivateurs, viens donc guider les mains et commence par eux le bonheur des humains. Quand la neige au printemps s'écoule des montagnes, dès que le doux zéphyr amollit les campagnes, que j'entende le bœuf gémir sous l'aiguillon, qu'un soc longtemps rouillé brille dans le sillon. Veux-tu voir les guérets combler tes vœux avides, par les soleils brûlants, par les frimas humides, qu'ils soient deux fois mûris et deux fois engraissés? Tes greniers crouleront sous tes grains entassés. Toutefois, dans le sein d'une terre inconnue, ne va point vainement enfoncer la charrue. Observe le climat, connaît l'aspect des cieux, l'influence des vents, la nature des lieux, des anciens laboureurs, l'usage héréditaire et les biens que prodigue ou refuse une terre. Dans ces riches vallons, la moisson jaunira, sur ces coteaux riants, la grappe noircira. Ici sont des vergers qu'enrichit la culture, là règne un vert gazon qu'entretient la nature. Le tmolé est parfumé d'un safran précieux. Dans les champs de sabbat, l'encens croît pour les dieux. Le xin voit le castor se jouer dans ses ondes. Le pont s'enorgueillit des mines fécondes. L'Inde produit l'ivoire, et dans ses champs guerriers, l'épire, pour l'élide, exerce ses coursiers. Ainsi, jadis, le ciel partagea ses largesses. Lorsqu'un mortel sauvé des ondes vengeresses, de fertiles cailloux semant d'affreux déserts, d'hommes laborieux repeupla l'univers. Connais donc la nature, et règle-toi sur elle. Si ton terrain est gras, dès la saison nouvelle qu'on y plonge le soc, et que l'été poudreux mûrisse les sillons, embrasés par ses feux. Mais si ton sol ingrat n'est qu'une faible arène, qu'au retour du bouvier, le soc l'effleure à peine. Ainsi l'un perd l'excès de sa fécondité, l'autre de quelque suc est encore humecté. Qu'un vallon moissonné dorme un an sans culture, son sein reconnaissant te paye avec usure, ou sème un pur froment dans le même terrain qui n'a produit d'abord que le frêle lupin, ou la veste légère ou ses moissons bruyantes de pois retentissant dans leur cosse tremblante. Pour l'avoine et le lin et les pavots brûlants, de leur suc nourricier ils épuisent les champs. La terre toutefois, malgré leurs influences, pourra, par intervalle, admettre ses semences, pourvu qu'un sol usé, qu'un terrain sans vigueur, par de riches engrais, ranime leur langueur. La terre ainsi repose, en changeant de richesse. Mais un entier repos redouble ses largesses. Cérès approuve encore que des chaumes flétris la flamme, en pétillant, dévorent les débris. Soit que les sels heureux d'une cendre fertile deviennent pour la terre un aliment utile, soit que le feu l'épure et chasse le venin des funestes vapeurs qui dorment dans son sein. Soit qu'en le dilatant par sa chaleur active, il ouvre des chemins à la sève captive. Soit qu'enfin, resserrant les pores trop ouverts, d'un sol que fatiguait l'inclémence des airs, aux froides eaux du ciel, aux souffles de borée, au soleil dévorant, il enferme l'entrée. Vois-tu ce laboureur, constant dans ses travaux, traverser ses sillons par des sillons nouveaux, écrasé sous le poids des longs râteaux qu'il traîne, les glèbes dont le soc a hérissé la plaine, gourmander sans relâche un terrain paresseux? Cérès, à ses travaux, sourit du haut des cieux. J'aime des hivers secs et des étés humides. L'été des sillons frais, l'hiver des champs arides sont un garant certain de la fertilité. C'est alors que, surpris de leur fécondité, et le riche Gargare et l'heureuse Mysie enfantent ces moissons qui nourrissent l'Asie. Ô maître des saisons, adresse donc tes vœux, mais l'art du laboureur peut tout après les dieux. Dans les champs la semence est-elle déposée, il la couvre à l'instant sous la glèbe écrasée. Puis d'un fleuve, coupé par de nombreux canaux, court dans chaque sillon distribuer les eaux. Si le soleil brûlant flétrit l'herbe mourante, aussitôt je le vois, par une douce pente, amener du sommet d'un rocher sourcilleux un docile ruisseau qui sur un lit pierreux tombe, écume, et roulant avec un doux murmure, des chants désaltérés raniment la verdure. Tantôt, pour empêcher qu'un frêle chalumeau ne languisse, accablé sous un riche fardeau, dès qu'il voit du sillon sortir ses blés superbes, il livre à ses troupeaux le vin luxe des herbes. Tantôt son bras actif, desséchant des marais, de leurs dormantes eaux délivre les guérets. Surtout lorsque, gonflant ses ondes orageuses, un fleuve a submergé les campagnes fangeuses et que du noir limon, dont les champs sont couverts, l'exhalaison impure empoisonne les airs. Mais, malgré tant de soins, malheureux que nous sommes. Malgré les animaux qui secondent les hommes, tout n'est pas fait encore. Crains pour tes jeunes blés l'ombre et l'herbe indomptable, et les brigands ailés. Tel est l'arrêt fatal du maître du tonnerre. Lui-même, il força l'homme à cultiver la terre, et n'accordant ses fruits qu'à nos soins vigilants, voulut que l'indigence éveillât les talents. Avant lui, point d'enclos, de bornes, de partage. La terre était de tous le commun héritage. Et sans qu'on l'arrachât, prodigue de son bien, la terre donnait plus à qui n'exigeait rien. C'est lui qui, proscrivant une oisive opulence, partout de son empire exila l'indolence. Il endurcit la terre, il souleva les mers, nous déroba le feu, troubla la paix des airs, empoisonna la dent des vipères livides. Contre l'agneau craintif, arma les loups avides, dépouilla de leur miel les riches arbrisseaux, et du vin dans les champs fit tarir les ruisseaux. Enfin, l'art, à pas lents, vint adoucir nos peines. Le caillou rend le feu recelé dans ses veines, la terre obéissante et les flots étonnés par la rame et le soc déjà sont sillonnés. Déjà le nocher compte et nomme les étoiles. Des chiens lancent un cerf, le chasseur tend ses toiles. La glu trompe l'oiseau, le crédule poisson tombe dans des filets ou pend à l'hameçon. Bientôt, le fer rougit dans la fournaise ardente. J'entends crier la dent de la lime mordante. L'acier coupe le bois que déchiraient les coins. Tout cède aux longs travaux et surtout aux besoins. Quand Dodone aux mortels refusa leur pâture, Cérès vint des guérets leur montrer la culture. De ces nouveaux bienfaits sont nés des soins nouveaux. La rouille vient ronger le fruit de nos travaux. La ronce naît en foule et les épis périssent. D'arbustes épineux les sillons se hérissent et Cérès, à côté de ses plus riches dons, voit triompher l'ivraie et régner les chardons. Tourmente donc la terre, appelle donc la pluie, chasse l'avide oiseau, détruit l'ombre ennemie. Ou, bientôt affamé, près d'un riche voisin, retourne au gland des bois pour assouvir ta faim. Mais les moments sont chers. Hâte-toi de connaître ce qui doit composer ton arsenal champêtre. D'abord, on forge un soc, on taille des traîneaux. De leurs ongles de fer, on arme des râteaux. On entrelace en claie un arbuste docile. Le vanne chasse des grains une paille inutile. Le madrier pesant te sert à les fouler. Et des chars, au besoin, seront prêts à rouler. Sans tous ces instruments, il n'est point de culture. De la charrue, enfin, dessinons la structure. D'abord, il faut choisir, pour en former le corps, un ormeau que l'on courbe avec de longs efforts. Le joug qui t'a servi ton robuste attelage, le manche qui conduit le champêtre équipage pour soulager tes mains et le front de tes bœufs, du bois le plus léger seront formés, tous deux. Le fer, dont le tranchant dans la terre se plonge, s'enchasse entre deux coins, d'où sa pointe s'allonge. Aux deux côtés du soc, de larges orillons, en écartant la terre, exhaussent les sillons. De 8 pieds en avant que le timon s'étende, sur 2 orbes roulants que ta main le suspende. Et qu'enfin, tout ce bois, éprouvé par les feux, se durcisse à loisir sur ton foyer fumeux. Il est 1000 autres soins consacrés par nos pères. Ne dédaigne donc pas ces préceptes vulgaires. D'abord, qu'un long cylindre également roulé aplanisse la terre où tu battras le blé. Si d'un ciment visqueux tes mains ne la pétrissent, d'herbes et d'animaux les fentes se remplissent. Là, l'immonde crapaud dans un coin s'assoupit, dans son trou tortueux la taupe se tapit, prévoyant les besoins de la triste vieillesse, la fourmi diligente y butine sans cesse. Le charançon dévore un vaste amas de grains, et le mulot remplit ses greniers souterrains. Peut-être voudrais-tu, dès la saison de flore, prévoir ce que pour toi l'été va faire éclore. Regarde l'amandier reverdir tous les ans, et courber en festons ses rameaux odorants. Abonde-t-il en fleurs? Par des chaleurs ardentes, le soleil mûrira des moissons abondantes. Si des feuilles sans fruits surchargent ces rameaux, le fléau ne battra que de 20 chalumeaux. Des légumes, souvent, l'enveloppe infidèle déguise la maigreur des fruits qu'elle recèle. Pour qu'il soit mieux nourri et pour rendre le grain plus prompt à s'amollir en bouillant dans les reins, j'ai vu dans le mar d'huile ou dans une eau nitrée détremper la semence avec soin préparé. Remède infructueux, inutile secret. Les grains les plus heureux, malgré tous ces apprêts, dégénèrent enfin si l'homme, avec prudence, tous les ans, ne choisit la plus belle semence. Tel est l'arrêt du sort. Tout marche à son déclin. Je crois voir un nocher qui la rame à la main lutte contre les flots et les fente avec peine. Suspend-il ses efforts? L'onde roule et l'entraîne. Il faut savoir encore interroger les cieux. L'Arcture, les chevreaux, le dragon lumineux sont pour le laboureur d'aussi fidèle guide que pour l'adroit nocher qui, sur des mers perfides implorant son pays, la terre et le repos, du détroit de Léandre, ose affronter les flots. Observe donc leur cours. Sitôt que la balance du travail, du repos, du bruit et du silence rendra l'empire égal, et du trône des airs entre l'ombre et le jour suspendra l'univers, avant que des vents froids le souffle la resserre, tandis qu'elle est traitable, on façonne la terre. De tes taureaux nerveux aiguillonne les flancs, sème l'orge, le lin, les pavots nourrissants, ne quitte point le soc, hâte-toi, les tempêtes vont verser les torrents suspendus sur nos têtes. Sitôt que dans nos champs Zéphyr est de retour, on y sème la fève, et quand l'astre du jour ouvrant dans le taureau sa brillante carrière engloutit Sirius dans des flots de lumière, les sillons amollis reçoivent les saints foins, et le millet doré redemande tes soins. Préfères-tu des blés dont les gerbes flottantes roulent au gré des vents leurs ondes jaunissantes? Attends, jusqu'au lever de la couronne d'or. Plusieurs jettent leurs grains quand Maïa luit encore, mais la terre à regret reçoit cette semence, et de maigres épis trompent leur espérance. La Fésole à tes soins a-t-elle quelque part? Jusqu'à l'humble lentille abaisses-tu ton art? Attends que dans les cieux disparaisse l'Arcture, et poursuis jusqu'au temps où règne la froidure. Pour régler nos travaux, pour marquer les saisons, l'art divisa du ciel les vastes régions. Soleil, âme du monde, océan de lumière, 12 astres différents partagent ta carrière. 5 zones de l'Olympe embrassent le contour. L'une, des feux brûlants et l'aride séjour. 2 autres, quand tout temps attriste la froidure, des 2 pôles glacés ont formé la ceinture. Mais entre ces glaçons et ces feux éternels, 2 autres ont reçu les malheureux mortels. Et dans son cours brillant borne l'oblique voie où du dieu des saisons la marche se déploie. Le globe, vers le nord, hérissé de frimas, s'élève et redescend vers les brûlants climats. Notre pôle, des cieux, voit la clarté sublime. Du Tartare profond, l'autre touche l'abîme. Callisto, dont le char craint les flots de Tétis, vers les glaces du nord brille auprès de son fils. Le dragon les embrasse, ainsi qu'un fleuve immense. Le pôle du midi, noir séjour du silence, n'offre aux tristes humains qu'une éternelle nuit. Peut-être, en nous quittant, Phébus, chez eux, s'enfuit, et lorsque ses coursiers nous soufflent la lumière, pour eux l'obscure nuit commence sa carrière. Le globe, ainsi connu, t'annonce les saisons. Quand il faut ou semer ou couper les moissons, abattre le sapin destiné pour Neptune, aux infidèles mères confier sa fortune. Et ce n'est pas en vain que ces astres brillants, en 4 temps égaux, nous partagent les ans. Plusieurs font à loisir, retenus par l'orage, ce qu'il faudrait hâter sous un ciel sans nuages. Ils aiguisent leur soc, ils comptent leurs boisseaux, creusent une nacelle où marquent leurs troupeaux, préparent des liens à leurs vignes naissantes, taillent des pieux aigus, des fourches menaçantes, la meule met en poudre où le feu cuit leurs grains, et le jonc en panier s'arrondit sous leurs mains. Les fêtes même, il est un travail légitime. Ne peut-on pas alors, sans scrupule et sans crime, tendre un piège aux oiseaux, embraser des buissons, d'un mur tissu d'épines entourer ses moissons, ou rafraîchir ses prés que la chaleur altère, ou baigner ses brebis dans une eau salutaire? C'est dans ces mêmes jours que, libre de travaux, chacun porte aux cités les présents des hameaux, et rapportant chez soi les tributs de la ville, presse les pas tardifs de son âne indocile. La lune apprend aussi, dans son cours inégal, quel jour à tes travaux est propice ou fatal. Le 5e est funeste. En ce jour de colère, naquirent Érinis, Tisiphone, Mégère. Et vous, fameux titans, géants audacieux, que la terre enfanta pour attaquer les cieux. 3 fois roulant des monts arrachés des campagnes, leur audace entassa montagne sur montagne, Ossa sur Pélion, Olympe sur Ossa, 3 fois le foudre en main, le dieu les renversa. Au 10e croissant de la lune nouvelle, on peut du fier taureau dompter le front rebelle. planter la jeune vigne ou d'une agile main promener la navette errante sur le lin. Une clarté plus pure embellit le neuvième. Le brigand le redoute et le voyageur l'aime. Chacun a son emploi. Mais dans ce choix du temps, ainsi que d'heureux jours, il est d'heureux instants. Faut-il couper le chaume? On le coupe sans peine quand la nuit l'a mouillé de son humide haleine. Pour dépouiller les prés, attend que sur les fleurs, l'aurore en souriante ait répandu ses pleurs. Plusieurs, pendant l'hiver, près d'un foyer antique, veillent à la lueur d'une lampe rustique. Leurs compagnes, près d'eux, partageant leurs travaux, tantôt d'un doigt léger fait rouler ses fuseaux, tantôt cuit dans les reins le doux jus de la treille et charme par ses champs la longueur de la veille. Mais c'est en plein soleil, dans l'ardente saison, qu'au tranchant de la faux on livre la moisson, que sur l'épi doré le fléau se déploie. Donne aux soins les beaux jours et l'hiver à la joie. L'hiver, tel qu'un nocher qui, plein d'un doux transport, couronne ses vaisseaux triomphants dans le port, tranquille sous le chaume à l'abri des tempêtes, l'heureux cultivateur donne ou reçoit des fêtes. Pour lui, ces tristes jours rappellent la gaieté. Il s'applaudit l'hiver des travaux de l'été. Alors même, sa main n'est pas toujours oisive. De l'arbre de Pallas, il recueille l'olive. Le myrte de Vénus lui cède un fruit sanglant, et le laurier sa graine, et les chênes leurs glands. Les flots sont-ils glacés, les champs couverts de neige? Il tend des raies au cerf, prend l'oiseau dans un piège ou presse un lièvre agile, ou la fronde à la main fait siffler un caillou qui terrasse le daim. D'autres temps, d'autres soins. Dirais-je, à quel désastre de l'automne orageux nous exposent les astres, quand les jours sont moins longs, les soleils moins ardents? Ou quels torrents affreux épanchent le printemps, quand le blé d'épi vert a hérissé les plaines, et des flots d'un lait pur déjà gonflent ses veines? L'été même, à l'instant qu'on liait en faisceau les épis jaunissants qui tombent sous la faux, j'ai vu les vents, grondant sur ces moissons superbes, déraciner les blés, se disputer les gerbes, et roulant leurs débris dans de noirs tourbillons, enlever, disperser les trésors des sillons. Tantôt, un vaste amas d'effroyables nuages, dans ces flancs ténébreux couvant de noirs orages, s'élève, s'épaissit, se déchire. Et soudain, la pluie, à flots pressés, s'échappe de son sein. Le ciel descend en eau et couche sur les plaines ses riantes moissons, vingt fruits de tant de peine. Les fossés sont remplis, les fleuves débordés roulent en mugissant dans les champs inondés. Les torrents bondissants précipitent leur onde, et des mers en courroux, le noir abîme gronde. Dans cette nuit affreuse, environnée d'éclairs, le roi des dieux s'assied sur le trône désert. La terre tremble au loin sous son maître qui tonne. Les animaux ont fui, l'homme est perdu, frissonne. L'univers ébranlé s'épouvante. Le dieu, d'un bras étincelant, dardant un trait de feu de ces monts si souvent mutilés par la foudre, de Rhodope ou d'Athos met les rochers en poudre, et leur sommet brisé vole en éclats fumants. Le vent croît, l'air frémit d'horribles sifflements, en torrents redoublés les vastes cieux se fondent, la rive au loin gémit et les bois lui répondent. Pour prévenir ces maux, lis aux voûtes des cieux, suis dans son cours errant le messager des dieux, observe si Saturne est d'un heureux présage, surtout au dieu des champs présente un pur hommage. Quand l'ombrage au printemps invite au doux sommeil, lorsque l'air est plus doux, l'horizon plus vermeil, les vins plus délicats, les victimes plus belles, offrent des vœux nouveaux pour des moissons nouvelles. Choisis pour temple un bois, un gazon pour autel, pour offrande du vin et du lait et du miel. Trois fois autour des blés on conduit la victime, et trois fois, enivré d'une joie unanime, un cœur nombreux la suit en invoquant Cérès. Même avant que le fer dépouille les guérets, tous entonnent un hymne, et couronnés de chaînes, chacun d'un pied pesant, frappe gaiement la plaine. Si ce culte pieux n'obtient pas de beaux jours, la lune de l'orage annonce au moins le cours, et le berger connaît par d'assurés présages quand il doit éviter les lointains pâturages. Au premier sifflement des vents tumultueux, tantôt, au haut des monts, d'un bruit impétueux, on entend les éclats. Tantôt les mers profondes soulèvent en grondant et balancent leurs ondes. Tantôt court sur la plage un long mugissement et les noires forêts murmurent sourdement. Que je plains les nochers, lorsqu'au prochain rivage, les plongeons effrayés avec des cris sauvages volent au sein de l'onde, ou quand l'oiseau des mers parcourt en se jouant les rivages déserts, ou lorsque le héron, les ailes étendues de ses marais s'élancent et se perd dans les nues. Quelquefois, de l'orage avant-coureur brûlant, des cieux se précipite un astre étincelant. Et dans le sein des nuits, qu'il rend encore plus sombre, traînent de longs éclairs qui sillonnent les ombres. Tantôt, on voit dans l'air des feuilles voltiger, et la plume en tournant sur les ondes nager. Si l'éclair brille au nord, de l'heure et de zéphyr, si la foudre en éclat ébranle au loin l'empire, alors, ô laboureur, crains les torrents des cieux. Nochez, ployez la voile et redoublez vos vœux. Que dis-je? Tout prédit l'approche des orages. Nul, sans être averti, n'éprouva leur ravage. Déjà l'arc éclatant qui rit trace dans le ciel boit les feux du soleil et les eaux de la mer. La grue, avec effroi, s'élançant des vallées, fuit ces noires vapeurs de la terre exhalée. Le taureau hume l'air par ses larges naseaux, la grenouille se plaint au fond de ses roseaux. L'hirondelle, en volant, effleure le rivage. Tremblante pour ses œufs, la fourmi déménage, et des affreux corbeaux, les noires légions, fendent l'air qui frémit sous leurs longs bataillons. Vois les oiseaux des mers et ceux que les prairies nourrissent près des eaux sur des rives fleuries. De leur séjour humide on les voit s'approcher, offrir leur tête aux flots qui battent le rocher, promener sur les eaux leurs troupes vagabondes, se plonger dans leur sein, reparaître sur l'onde, s'y replonger encore, et par cent jeux divers annoncer les torrents suspendus dans les airs. Seul, errant à pas lents sur l'aride rivage, la corneille enrouée appelle aussi l'orage. Le soir, la jeune fille, en tournant son fuseau, tire encore de sa lampe un présage nouveau, lorsque la mèche en feu, dont la clarté s'émousse, se couvre en pétillant de noirs flocons de mousse. Mais la sérénité reparaît à son tour. Des signes non moins sûrs t'annoncent son retour. Des astres plus brillants ont peuplé l'hémisphère. La lune sur son char le dispute à son frère. On ne voit plus dans l'air des nuages errants flotter comme la laine éparse au gré des vents. Ni l'oiseau de Tétis, sur l'humide rivage, au rayon du soleil, étaler son plumage. Ni ces vils animaux dans la fange engraissée, déliés des épis, les faisceaux dispersés. Enfin l'air s'éclaircit. Du sommet des montagnes, le brouillard affaissé descend dans les campagnes. Et le triste hibou, le soir, au haut des toits, en long gémissement ne traîne plus sa voix. Tantôt l'affreux Nisus, avide de vengeance, sur sa fille, à grand bruit, du haut des cieux, s'élance. Scylla vole et fend l'air, Nisus vole et la suit, Scylla plus prompt encore se détourne et s'enfuit. Même les noirs corbeaux, bannissant la tristesse, annoncent les beaux jours par trois cris d'allégresse, et d'un gosier moins rauque expriment leur gaieté. Souvent, au haut de l'arbre où flotte leur cité, vous voyez leurs ébats agiter le feuillage. Une douceur secrète attendrit leur ramage. Ils aiment à revoir depuis longtemps banni leur arbre hospitalier, leur famille et leur nid. Non que du ciel en eux la sagesse immortelle, d'un rayon prophétique émis quelque étincelle, l'instinct seul les éclaire. Et lorsque ces vapeurs d'où naissent tour à tour le froid et les chaleurs, ou des vents inconstants lorsque l'humide haleine change pour nous des cieux l'influence incertaine, les êtres animés changent avec le temps. Ainsi, muet l'hiver, l'oiseau chante au printemps. Ainsi l'agneau bondit sur le naissant herbage et même le corbeau pousse un cri moins sauvage. Mais malgré ces leçons, crains-tu d'être séduit par le perfide éclat d'une brillante nuit? Du soleil, de sa sœur, observe la carrière. Quand la jeune Phébé rassemble sa lumière, si son croissant terni s'émousse dans les airs, la pluie alors menace et la terre et les mers. Du phare de la pudeur peint-elle son visage? Des vents prêts à gronder, c'est le plus sûr présage. Le quatrième jour, cet augure est certain, si son arc est brillant, si son front est serein, durant le mois entier que ce beau jour amène, le ciel sera sans eau, l'aquilon sans haleine, l'océan sans tempête, et les nochers heureux bientôt sur le rivage acquitteront leurs vœux. Le soleil à son tour t'instruit, soit dès l'aurore, soit lorsque de ses feux l'Occident se colore. Si de taches semées sous un voile ennemi son disque renaissant se dérobe à demi, crains les vents pluvieux. Leurs humides haleines menacent tes troupeaux, tes vergers et tes plaines. Si de son lit de pourpre on voit l'aurore en pleurs sortir languissamment sans force et sans couleur, si Phébus, à travers une vapeur grossière, dispersant faiblement quelques traits de lumière, semble luire à regret, de leur feuillage vert les raisins colorés vainement sont couverts. Sous les grains bondissants, dont les toits retentissent, la grêle écrase, hélas, les grappes qui mûrissent. Surtout, Sois attentif lorsque, achevant leur tour, ces coursiers dans la mer vont éteindre le jour. Du pourpre, de l'azur, les couleurs différentes souvent marquent son front de leurs taches errantes. Saisi de ces vapeurs, le spectacle mouvant. L'azur marque la pluie et le pourpre le vent. Si le pourpre et l'azur colorent son visage, de la pluie et des vents redoutent le ravage. Je n'irai point alors sur de frêles vaisseaux, dans l'aurore de la nuit m'égarer sur les eaux. Mais lorsqu'il recommence et finit sa carrière, s'il brille tout entier d'une pure lumière, sois sans crainte. Vainqueur des humides autans, l'Aquilon va chasser les nuages flottants. Ainsi, ce dieu puissant, dans sa marche féconde, tandis que de ses feux il ranime le monde, sur l'humble laboureur veille du haut des cieux, lui prédit les beaux jours et les jours pluvieux. Qui pourrait, ô soleil, t'accuser d'imposture? Tes immenses regards embrassent la nature. C'est toi qui nous prédis ces tragiques fureurs qui couvent sourdement dans l'abîme des cœurs. Quand César expira, plaignant notre misère, d'un nuage sanglant tu voilas ta lumière. Tu refusas le jour à ce siècle pervers. Une éternelle nuit menaça l'univers. Que dis-je? Tout sentait notre douleur profonde, tout annonçait nos maux, le ciel, la terre et l'onde, les hurlements des chiens et le cri des oiseaux. Combien de fois l'Etna, brisant ses arsenaux parmi des rocs ardents, des flammes ondoyantes, vomit en bouillonnant ses entrailles brûlantes. Des bataillons armés dans les airs se heurtaient, sous leurs glaçons tremblants les Alpes s'agitaient. On vit errer la nuit des spectres lamentables, des bois muets sortaient des voix épouvantables. Les reins même parurent sensibles à nos malheurs. Sur le marbre amolli on vit couler des pleurs. La terre s'entr'ouvrit, les fleuves reculèrent. Et pour comble d'effroi les animaux parlèrent. Le superbe Éridan, le souverain des eaux, traîne et roule à grand bruit forêts, bergers, troupeaux. Le prêtre, environné de victimes mourantes, observe avec horreur leurs fibres menaçantes. L'onde changée en sang roule des flots impurs. Des loups hurlant dans l'ombre épouvantent nos murs. Même en un jour serein l'éclair, lui, le ciel gronde, et la comète en feu vient effrayer le monde. Ainsi la Macédoine a vu nos combattants une seconde fois s'égorger dans ses champs. Deux fois le ciel souffrit que ces fatales plaines s'engraissassent du sang des légions romaines. Un jour le laboureur dans ces mêmes sillons où dorment les débris de tant de bataillons, heurtant avec le socle leur antique dépouille, trouvera, plein d'effroi, des dards rongés de rouille. Verra de vieux tombeaux sous ses pas s'écrouler, et des soldats romains les ossements roulés. Ô père des Romains, fils du dieu des batailles, protectrice du Tibre, appui de nos murailles, Vesta, Dieu paternel, ô Dieu de mon pays, ah, du moins que César rassemble nos débris. Par ses revers sanglants dont elle fut la proie, Rome a bien effacé les parjures de Troie. Hélas, le ciel, jaloux du bonheur des Romains, César te redemande aux profanes humains. Que d'horreurs, en effet, ont souillé la nature. Les villes sont sans loi, la terre sans culture. En des champs de carnage on change nos guérets, et Mars forge ses dards des armes de Cérès. Ici le Rhin se trouble, et là mugit l'Euphrate. Partout la guerre tonne, et la discorde éclate. Des augustes traités, le fer tranche les nœuds, et Bellone en grondant se déchaîne en 100 lieues. Ainsi, lorsqu'une fois lancés de la barrière, d'impétueux coursiers volent dans la carrière, leur guide les rappelle et se rédit en vain. Le char n'écoute plus, ni la voix, ni le frein.